nouveau rendez-vous sur RFI.
Décryptage, Marie-France Chatin-Laroche.
Il nous manque parfois, souvent, des clés pour mieux comprendre le monde auquel nous appartenons. Dans Décryptage, je reçois un chercheur, un spécialiste ou encore un analyste. Notre objectif, vous donner un éclairage sur ces événements, ces évolutions qui viennent ponctuer ou chambouler la vie de la planète.
Décryptage, du lundi au jeudi, à 13h40, temps universel.
RFI, la radio du monde. Les visiteurs du jour. Hervé Guillemot. Enquête de société. Patrick Chompré.
Les eaux sont éclatées. Comme si ça avait explosé de l'intérieur.
Je me demande d'où est le reste de l'équipage.
Hey Dallas, Lambert, venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un champ clôturé. C'est plein d'objets de cuir comme des œufs ou je sais pas quoi. Ils semblent complètement fermés. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique.
Patrick Chompré, les auditeurs vous connaissent comme moi et depuis des années ils savent que cette question vous taraude. Sommes-nous seuls dans l'univers?
Et taraude beaucoup de scientifiques également. Bon, c'est vrai, on donne les chiffres, notamment autour de cette exposition qu'on va découvrir. 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers et donc très sûrement plusieurs centaines de milliards de planètes dans l'univers. Donc la question qui vient tout de suite, sommes-nous seuls sur toutes ces planètes? Peut-on imaginer être seul? Alors voilà, la vie est-elle un phénomène qui ne s'est produit qu'une fois chez nous ou bien c'est arrivé dans d'autres endroits? On en parle avec Blandine Savroda qui est responsable de l'exposition, donc Seule dans l'univers, qui a ouvert ses portes hier à la Cité des sciences et de l'industrie. Bonjour.
Bonjour madame.
Et Pierre Vécotin qui est exobiologiste au laboratoire des systèmes atmosphériques, s'appelle le LISA et c'est au CNRS. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Blandine Savroda, une réponse, oui ou non, sommes-nous seuls dans l'univers?
C'est la grande question. On n'y répond pas vraiment dans l'exposition puisqu'on est plutôt à la quête de l'origine de la vie. Et pour l'instant, on a exploré certaines planètes, d'autres sont beaucoup plus lointaines et on n'a pas trouvé un début de vie. Alors il y a eu le programme SETI aussi américain qui a essayé de capter un signal éventuel. Jusqu'à présent, soit nous ne les intéresserons pas, ce qui est fort probable, hein, parce qu'on est très présomptueux de penser qu'ils viennent nous enlever. Soit ils sont beaucoup trop loin, soit ils n'ont pas encore inventé d'engin qui dépasse la vitesse de la lumière. Mais pour l'instant, on peut dire que à l'heure d'aujourd'hui, on est seul dans l'univers.
Cette exposition, c'est donc un voyage en 5 étapes à la rencontre de créatures, de formes de vie qui pourraient peupler notre univers. On a quand même l'impression que vous répondez un petit peu oui hein, avec tout ça, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Des aspects différents quand même. Il y a donc le côté imagination et puis le côté recherche scientifique, car il faut dire que la recherche scientifique est très, finalement, même si elle ne le dit pas toujours, très importante sur ces recherches de vie dans l'univers.
Oui, tout à fait. Alors, les recherches, ce qui est fantastique, c'est que le vivant, c'est l'unité, la cellule et la diversité. Alors, on présente, jusqu'après, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait qu'au fond des mers, à des profondeurs abyssales, eh bien, il n'y aurait pas de vie. Et puis, on a découvert les fumeurs noirs, les sources hydrothermales, et on a découvert qu'il y avait des animaux, des poissons, qui arrivaient à vivre sans photosynthèse. Et puis, on s'intéresse aussi à l'évolution, stratégie qu'ont développé les plantes et les animaux au cours de nos 4,5 milliards de notre planète et apparition de la vie, 3,8 milliards, à une échelle de temps qui nous rend tout petit. Et puis on s'intéresse, et les scientifiques s'intéressent beaucoup aux extrémophiles, c'est-à-dire aux bactéries. Oui, les extrémophiles, c'est-à-dire des bactéries qui vont se développer dans des environnements, dans l'acide, vide, dans le froid, dans la chaleur, dans des roches, dans des conditions tout à fait particulières. Sachant que les microbiologistes estiment qu'on ne connaît que 10% de la vie microscopique sur Terre. Et justement, on en parlait avant l'émission, qu'on en découvre tous les jours.
La vie serait donc vraiment beaucoup plus forte, beaucoup plus pugnace qu'on ne pourrait l'imaginer, en tout cas à notre image. Hervé Cottin, donc vous êtes exobiologiste, c'est donc la recherche de l'apparition du vivant.
Oui, c'est ça, l'exobiologie, c'est rechercher si la vie a pu apparaître ailleurs que sur la Terre. Et bien sûr, ça passe par comprendre comment est-ce que la vie est apparue sur la Terre d'abord, pour essayer de voir dans quelles conditions elle est apparue et essayer de comprendre si ces conditions peuvent se retrouver sur d'autres planètes.
Et vous êtes d'accord donc avec ceci, vous sentez aussi que finalement on en vient à une conception beaucoup plus forte de la vie qui est donc apparaît dans des conditions extrêmes.
Alors, est-ce que la vie est apparue dans des conditions extrêmes? On peut pas y répondre. Ce qu'on sait, c'est que sur Terre, une fois que la vie est apparue, elle a su s'adapter à toute la diversité des environnements qui existent sur Terre. Donc des environnements qui sont très durs pour un être humain sont des environnements tout à fait plaisants pour certaines bactéries qui adorent être à 100 degrés, adorent être à des pH très acides, détestent la lumière. Donc des choses très, qui étaient encore très étonnantes il y a une dizaine, une vingtaine d'années maintenant, deviennent naturelles.
Et on en découvre tous les jours. Donc.
On en découvre, on pourrait presque simplifier en disant partout où on cherche sur Terre, on va finir par trouver des organismes qui ont su alors soit apparaître, la vie a pu apparaître dans ces environnements-là, soit s'adapter à ces environnements-là.
Et ça, on ne le sait pas encore.
On ne sait pas encore. On cherche.
Parce que vous travaillez sur, donc par exemple sur les atmosphères des planètes, et vous nous dites qu'on ne connaît pas aujourd'hui l'atmosphère telle qu'elle était sur la Terre lorsque la vie est apparue il y a 3, et quelques milliards d'années.
C'est ça l'une des l'avantage et l'inconvénient de la vie, c'est qu'une fois qu'elle apparaît, elle modifie tout. Et donc l'atmosphère de la Terre, qui est composée d'azote et d'oxygène. Et en fait, une signature, la présence d'oxygène, c'est la présence de la vie, de la photosynthèse des plantes qui produit de l'oxygène, qui fait qu'on en a environ 20% de l'atmosphère. Donc, trouver une planète avec 20% d'oxygène dans son atmosphère, ça voudrait dire que, très probablement, la vie est apparue sur cette planète. Donc, la vie est apparue sur la Terre, elle a modifié l'environnement de la Terre, et donc on n'a plus vraiment de traces de l'environnement qu'on appelle de la Terre primitive, de l'environnement qui était favorable à l'éclosion de la vie.
Lorne Savoda, vous avez créé deux planètes, vous avez imaginé deux planètes dans cette exposition.
Oui, alors, les deux planètes, c'est l'imaginaire scientifique. C'est-à-dire que c'est une modélisation de ce que connaissent les scientifiques, aussi bien au niveau du climat, de la biologie, et donc deux planètes. Une planète Aurélia qui tourne autour d'une naine rouge. On sait qu'une naine rouge vit 100 fois plus qu'une étoile comme notre étoile, le Soleil. Donc, il y aurait la possibilité d'une évolution. Il y a bien sûr de l'eau liquide, indispensable à l'émergence de la vie. Il y a de du dioxyde de carbone. Il y a bien sûr de l'oxygène, une activité volcanique très forte. Elle est tellement proche de son étoile qu'elle n'a pas de rotation. Il y a une de ses faces, c'est un jour continuel. Il n'y a pas de couche d'ozone. Donc, il y a des projections. On reçoit des UV mortels. Et en fait, ils ont imaginé une faune et une flore. Alors, qui est issue, les pieds d'argile sont issus des poissons, les goulogues qui sont des méchants prédateurs, ils sont issus de qui ? On retrouve la pieuvre qui est sortie de l'eau, qui a trois yeux. Il y a des corolles géantes, brûlantes, qui sont un peu, leurs ancêtres étaient la méduse qui abrite des petites algues qui réalisent la photosynthèse pour les deux. Il y a une symbiose totale, donc c'est une plante avec cinq cœurs. Et puis une autre, la lune bleue, qui elle tourne, gravite autour d'une géante gazeuse, avec une activité volcanique aussi très très forte. Et puis là, une quantité extrême de dioxyde de carbone et d'oxygène, donc des plantes qui font un kilomètre et une atmosphère trois fois plus dense que celle de la Terre, donc il y a des baleines volantes. Baleines volantes.
Ah, ça, on peut tout imaginer.
Qui ne voit pas avec le vivant, qui se dirige par des sonars. Enfin, voilà, c'est là où l'imaginaire scientifique dépasse presque celui de la fiction.
Le voyeur en provenance de Xander Floyd est amené à Camdo, Veuillez accueillir vos hôtes devant la zone de réception.
Ne t'approche pas de ce mec.
C'est un grincheux. 3 heures Antoine après un voyage de 17 trillions de kilomètres, ça porte sur les nerfs, c'est normal. L'observation, le cœur de notre entreprise. Voici les jumeaux. Et bas. Cette carte permet de repérer tous les aliens réguliers sur Terre. Et ce, à tout moment. Plusieurs sont sous surveillance constante. Tous ceux que tu vois ici sont des extraterrestres. En public, ils paraissent normaux, mais en privé...
Oh la vache!
Ça n'a pas de sens, je sais.
En fait, au contraire, c'est parfaitement sensé. Moi, au cours élémentaire, tout le monde me traitait de cinglé. Mais j'étais sûr et certain que ma prof venait de Vénus ou je ne sais d'où.
Madame Edelson, de Jupiter, en fait. Enfin, d'un de ses satellites.
Les visiteurs du jour, et pour ces quelques instants, ce sont ces êtres un petit peu extraordinaires et fantasmagoriques du film Men in Black. Et au fond, Hervé Cottin, il faut bien le préciser, lorsqu'on parle de la vie, il y a la vie, c'est la vie tout court, hein, celle dont vous parlez, la vie biologique. Et puis, il y a celle qu'on imagine, c'est-à-dire la vie intelligente, ou qu'on recherche.
Alors, effectivement, on peut chercher la vie. Quand on se place d'un point de vue d'être humain, on cherche peut-être des êtres un peu semblables à nous, qui pensent, qui communiquent. Mais c'est d'une certaine manière qu'un petit, une petite particularité de la vie sur la Terre. Et j'ai des collègues microbiologistes qui vont défendre pieds et ongles que c'est pas l'être humain qui est l'organisme le plus évolué sur la Terre. Ce sont ces petites bactéries qui sont extrêmement résistantes, extrêmement adaptées et adaptables à la diversité des environnements qui existent sur Terre. Mmh. Donc peut-être que le premier extraterrestre qu'on rencontrera, faudra le regarder sous un microscope pour pouvoir l'observer.
Ben oui, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que franchement, nous pensons forcément trouver des gens qui nous ressemblent. Mais non, c'est pas forcément comme ça. L'exobiologie, je le rappelle, c'est donc l'étude des conditions d'apparition du vivant. Hervé Cottin, premier terrain d'observation, c'est d'abord d'aller enquêter dans l'espace. Il y a eu beaucoup de sondes, beaucoup d'études dans les dernières décennies. Dans notre propre système solaire, qu'est-ce qu'on sait finalement? Il y a eu de l'eau sur Mars, il y a eu de l'eau, il y a encore de l'eau sur Titan peut-être?
Alors, on sait qu'il y a de la vie sur la Terre, c'est le premier, élément. Donc, il y a de l'eau liquide sur la Terre, et donc on pense que pour que la vie apparaisse sur une planète, il faut de l'eau liquide et de la matière organique, des molécules à base de carbone. Donc, grâce aux missions américaines et aussi à une mission européenne qui s'appelle Mars Express, qui est actuellement en orbite autour de la planète Mars, on sait maintenant avec certitude qu'il y a eu de l'eau liquide qui a coulé à un moment donné sur Mars. Alors il y a plusieurs milliards d'années, Mars est plus petite que la Terre, plus éloignée du Soleil, donc pour diverses raisons géologiques, l'eau a pas pu rester stable sous forme liquide pendant très longtemps, mais... comme il y a eu de l'eau liquide sur Mars, on se dit que peut-être la vie a pu apparaître sur cette planète. Et donc trouver en fait un deuxième exemple de vie dans le système solaire, donc deux planètes sur lesquelles il y aurait de l'eau liquide, de la matière organique et deux fois la vie qui apparaît, ça permettrait de dire oui... une fois qu'on a eau liquide plus matière organique, alors on peut écrire l'équation égale vie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de chercher.
Très intéressant, on est sur Mars. Autre recherche très importante, ça vous en parlez dans l'exposition, c'est la recherche des planètes extrasolaires. Ces planètes très difficiles à voir, dans une savoir-là, puisque donc elles sont dans d'autres galaxies, donc proches d'étoiles très brillantes. Donc comment les repérer? On en connaît quoi? On en connaît 200 aujourd'hui
à peu
près.
On en connaît 200. Alors la première a été découverte en 1995 à partir de l'observatoire de Haute-Provence. C'est ça. Et depuis, on en découvre constamment.
Régulièrement, voilà.
Régulièrement. Alors, il va y avoir une mission, là, normalement, un satellite du CNES, Corot, qui doit partir normalement fin décembre. Et qui va essayer de mieux repérer les étoiles, de mieux les comprendre par le système de l'oscillation. Quand une étoile... alors ça sera plus...
Oui, ça va être compliqué,
Hervé qui va l'expliquer, et par le système de transition, c'est-à-dire que quand la planète passe devant son étoile, eh bien la luminosité de son étoile fléchit et on peut donc la repérer. Mais toujours est-il que ces exoplanètes, elles sont relativement lointaines.
Oui. Est-ce qu'on connaît leur atmosphère justement, Hervé Cottin, vous qui travaillez sur
l'atmosphère? Pour l'instant, pas vraiment. Ce qu'on voit justement, ce sont les planètes les plus faciles à repérer.
Oui.
Donc on voit des grosses planètes de la taille de Jupiter ou plus grosses qui orbitent près de leur étoile. Donc des configurations assez différentes de notre système solaire. Mais parce qu'on ne peut détecter que ça. Et justement, l'intérêt de Koro, donc ce satellite du CNES, ça va être d'être capable de détecter des planètes un peu comme la Terre, un peu plus grosses, du genre de la Terre. Et donc comme ça, on aura une idée de un peu plus statistique de la répartition des planètes qui ressemblent à la Terre dans la galaxie. Et alors, à l'échelle de 15-20 ans, il y a des projets de mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Darwin, qui va envoyer 6 télescopes dans l'espace. Et ces télescopes vont être capables de repérer des planètes et aussi d'analyser la composition de leur atmosphère.
Alors ça va vous intéresser directement.
Et ça va être une mine d'or en renseignement, parce que bon, dans notre système solaire, on a un exemple, la Mars qui ressemblait un petit peu à la Terre, mais on n'a pas énormément d'exemples de planètes susceptibles d'abriter la vie, alors que là, on aura des centaines et des centaines de cas, et on va pouvoir faire de la statistique. Et donc si, dans ces atmosphères, on trouve... Alors, l'oxygène, c'est un peu compliqué à détecter à distance. Mais par contre, s'il y a beaucoup d'oxygène sur une planète, il va se former de l'ozone, dans certains cas.
Et ça,
cette fameuse couche d'ozone qui nous pose tant de soucis dans l'atmosphère terrestre, qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Et l'ozone, c'est très facile à voir. Et donc, si on détecte une planète avec beaucoup d'ozone, et ça, on sera capable de le faire, on pourra se dire, sur cette planète, il y a des chances que la raison de l'ozone, ce soit la vie.
Dans 10 ans, la dépêche tombe et on nous dit, ça y est, il y a beaucoup d'ozone sur telle planète qu'on vient de découvrir. Comment vous réagissez?
Ça sera peut-être... Je sais pas, ça va être une période, à mon avis, très, très intéressante et très, très, très excitante, parce qu'on sait... On ne sait pas à quoi s'attendre. À mon avis, je suis sûr qu'on sera surpris. Je suis sûr que cette recherche va nous amener à des surprises, des étonnements, même peut-être avant 10 ans, peut-être qu'un robot martien, un jour, un robot sur Mars, un robot envoyé sur Mars par les Terriens,
va trouver des traces,
va trouver un fossile un jour, et ce fossile, ça sera la preuve qu'il y a eu de la vie sur Mars. Donc, ça sera peut-être la semaine prochaine, ça sera peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Je suis plus confiant que justement le travail sur les planètes extrasolaires, par leur nombre, nous permettra d'apporter, d'avancer.
Vous ne donnez évidemment pas de délai, mais ce qui est impressionnant à vous écouter tous les deux, c'est qu'on a l'impression qu'on est simplement au début de quelque chose finalement.
On a maintenant la technique, la recherche de la vie, c'est aussi quelque chose qui permet de pousser les techniques d'investigation, d'analyse, pour chercher des molécules sur la surface de Mars. On doit développer des nouvelles techniques d'analyse pour détecter les atmosphères de planètes extrasolaires. On doit développer des nouvelles techniques aussi. Et donc c'est un moteur en développement scientifique et technique extrêmement, extrêmement important et très... qui a des retombées dans le quotidien de tout un chacun, alors que ça peut paraître éloigné. On cherche des extraterrestres, mais au final on développe des techniques de communication, d'analyse, qui vont ensuite retomber pour bénéficier à l'humanité tout entière.
Et vous, Blandine Sabreda, vous réagissez comment?
Oh, moi je suis certainement très influencée par l'optimisme des scientifiques. Et donc, c'est vrai, il y a 4,5 milliards derrière nous, il y en a certainement autant
devant
nous. Nous sommes une toute petite tête d'épingle, on cherche, et bon, je pense que effectivement, on est à l'aube d'une nouvelle histoire.
Est-ce que tout cela nourrit vos rêves?
Ah oui, moi, écoutez, il y a certains...
À part votre fascination pour la fieuvre, évidente, qui a au moins deux cœurs, donc, qui est capable de vivre des choses formidables.
Oui, mais du coup, moi, j'ai voulu savoir pourquoi il y avait deux cœurs. J'ai cherché. Oui, ça nourrit les rêves, ça nourrit la compréhension, ça m'alerte encore plus sur l'état de l'environnement planétaire. Voilà.
Hervé Cotin, ça nourrit également vos rêves?
Oui, il n'y a même pas besoin de rêver, il suffit de regarder ce qu'il y a autour de nous, la diversité du vivant, du vivant sur la Terre. L'exploration du système solaire, à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau corps du système solaire, on trouve des choses étonnantes, donc oui, on s'ennuie, on s'ennuie pas. Oui.
Et l'on sait évidemment que ça nourrit les rêves de Patrick Chompré.
Mais bien sûr, les rêves toute la journée. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous voir ici à RFI dans Les Visiteurs. Et puis donc, l'expo Seul dans l'Univers, c'est la Cité des Sciences et d'Industrie depuis hier.
Oui, à RFI, on pourrait presque dire RFU, Radio France Universelle, puisque nous sommes en train justement d'envoyer des messages aux extraterrestres. Merci d'être venus.